Ceci est la rediffusion de l'émission Cappuccino.
Alors, on vous souhaite un beau réveil, plein de bonnes choses. Aujourd'hui, il va faire beau, donc il faut en profiter.
Ero tentato ma no, e va bene lo so. Ma com'è bella la vita e la tua faccia alle sei di mattina.
Ma tu non piangere. Non si.
Aligre FM presenta Cappuccino.
Il presentatore del 9:30 è Michele Gotti con i suoi invitati.
Sì, allora. Renatino, tu me lances pas aujourd'hui?
Sì, oh caro Michele, scusami.
Dormi? Come mai? Pensavo a quelle belle canzoni.
È vero, stavo riprendendo le memorie al mente, eccetera,
la gioventù passata.
E altro che, Bene, allora, caro Michelino, com'è oggi?
Tutto bene. Allora, tu sais, on va faire un poète. Aujourd'hui, c'est la fête, puisque c'est la fête de la République, c'est le 2 juin 2024, et l'émission est consacrée à cet événement national, et nous aurons au programme Maurizio Puppo, qui est déjà dans les studios, collaborateur d'Altri Italiani, qui nous donnera des explications et des informations sur cette commémoration qui date de 47. Et vers les 10h15, à l'occasion de cet événement, on aura Irene Castagnoli, qui sera avec nous en insert pour nous expliquer l'importance de la fête du 2 juin en Italie. En attendant, bon réveil. Et il fait toujours beau dans les studios d'Aligre, hein, parce qu'à chaque fois, malheureusement, on a le soleil gris. Mais voilà, c'est la fête ici et c'est tant mieux. Alors, justement, tout à l'heure, tu nous as expliqué un petit peu déjà qu'est-ce que c'était que le 2 juin. Oui. Mais ce qui est important aussi, c'est que tu nous expliques et aussi également l'hymne italien. D'où il vient et pourquoi? Explique-nous un peu ça.
Bene, dunque, scritto nell'autunno del 1847 dall'allora ventenne studente genovese e patriota Goffredo Mameli, musicato poco dopo a Torino da un altro genovese, Michele Navarro, il canto degli italiani nacque in quel clima di fervore patriottico. Una sera di mezzo settembre a Torino, in casa di Valerio Lorenzo, si faceva musica e politica ed entra Ulisse Borzino e dà a Navarro un foglietto, lo legge, si commuove e piange. Tutti vogliono sapere cos'era ed erano scritte le parole del nuovo inno degli italiani. Mette le parole in musica e l'inno d'Italia è nato. Viene però ufficialmente riconosciuto il 12 ottobre 1946 è confermato in questi ultimi anni. Ferito in guerra, dopo averlo amputato di una gamba a causa della gangrena, Goffredo Mameli muore all'età di 22 anni.
Merci pour cette explication. On y reviendra bien sûr, et ce fameux Fratelli d'Italia qu'on chante toujours bien sûr avec grand plaisir, et on l'écoute tout de suite, l'hymne d'Italie.
Thank you.
chanter aussi en même temps parce que ça nous fait plaisir.
Oui.
Voilà, alors c'est vrai qu'aujourd'hui, en plus, ça tombe impeccablement bien puisque nous sommes le 2 juin et donc c'est dimanche et c'est toujours l'émission Cappuccino.
Double fête.
De 8h à 11h. Voilà, double fête pour vous. On rappelle qu'on a un téléphone qui est le 01 40 24 29 29. Peut-être aussi vous allez nous expliquer ce que vous allez faire vous aujourd'hui, peut-être pour cette fête nationale. Peut-être vous allez faire un bon repas avec des spaghettis vert, blanc, rouge, qui sait, avec la, et le prosciutto et puis la sauce tomate, et le vert, blanc, rouge de l'Italie. Alors, quelques informations et après, justement, on parlera de cette fête nationale hein, du 2 juin. Donc, notre ami Alain nous informe que la dernière séance du Ciné-Club Acli Cappuccino de la saison se tiendra vendredi à 20h au 28 rue Claude Tillier, métro Reuilly-Diderot. Séance gratuite, on le rappelle, le film présenté sera Django, épaule de l'amitié, après la projection du film. Hein. Renate, on t'attend, ainsi que notre ami Raphaëlito. Qui ça? Western, ça vous rappellera votre jeunesse, quoi. Et puis également, Alain nous informe que le vendredi 7 juin de 19h à 22h, une rencontre exceptionnelle aura lieu avec Tonina Benacquista, l'auteur de Polar et de bandes dessinées, chez Val di Comino, au 23 rue de l'Abbé Grégoire, dans le 6e arrondissement. Réservation conseillée, restauration sur place pour réserver. Donc, le téléphone, c'est le 06 58 94 52 55. Alors, la prochaine chanson, on va demander à notre invité qui est là, Maurizio Pupo. Bonjour.
Bonjour.
Ça va? Alors là, on a entendu l'hymne d'Italie, mais c'est vrai que pendant plusieurs décennies même, on a eu une polémique pour savoir si peut-être finalement le fameux Nabucco de Verdi ne pourrait pas être l'hymne italien. Votre réflexion?
Nabucco, c'est l'opéra en entier. Par contre, le morceau qui était appelé à être cela, c'est Il va pensiero. Et Il va pensiero, c'est le chant des esclaves qui veulent se libérer. Et voilà, va pensiero sulle ali dorate, etc., etc. Voilà, non, mais je crois que Fratelli d'Italia, c'est plus approprié.
Alors,
voilà.
On écoute tout de suite, donc le Nabucco di Verdi.
Thank you.
un beau morceau hein, quand même de Verdi, on l'écoute avec grand plaisir. Et puis c'est vrai que c'est lié quand même l'opéra avec la naissance de l'unification d'Italie, c'était à peu près en même temps.
Il y a une anecdote, la première soirée, tout le monde s'est mis à siffler le Nabucco. Le lendemain, Verdi y met dedans Va pensiero. Et tout le monde a applaudi et Verdi seul a sifflé.
D'accord.
Ils ont dit, vous n'avez rien compris.
Voilà. Merci pour cette anecdote. Alors, nous sommes avec Maurizio Pupo, qui donc est de Gênes et qui est un collaborateur de Altri Italiani. Vous avez été aussi en 2016 le président del Circolo Democratico de l'Association Democratici de Parigi. Et vous avez écrit des livres, écrit un poète in fabrica, Butcher Chiate. Ça, c'est pour la Sampdoria.
C'est sur mon équipe de foot, la Sampdoria.
Et le Grand Torino, ça va faire plaisir aussi à Renato, parce que lui, il adore le Grand Torino. Voilà, merci d'être avec nous, parce que comme ça, on peut un petit peu mieux parler de cette fête de la République du 2 juin. Alors déjà, peut-être c'est compliqué, parce que pour que les gens comprennent bien, le référendum a eu lieu le 2 et le 3 juin, mais finalement, ça n'a pas été tout de suite le départ de la République. Il a fallu que ça soit validé. Et puis après, la fête a été organisée, la commémoration après, puis ça s'est arrêté. Enfin, vous pouvez peut-être nous expliquer comment ça s'est passé vraiment, le déroulement.
C'est une histoire complexe et c'est une belle histoire. C'est une belle histoire et une fête nationale aujourd'hui à laquelle moi, je suis particulièrement attaché. Le 2 juin, et il faut considérer, le 2 juin 1946, il se passe quelque chose. L'Italie était un pays cassé en deux. C'est ça qu'il dit Benedetto Croce dans une page de son journal intime. Cassé en deux du point de vue géographique, parce qu'il faut savoir que le nord de l'Italie avait été occupé par l'armée allemand, des nazis, il y avait eu la guerre civile avec la résistance, le sud de l'Italie avait été libéré par les alliés, les Américains, il y avait un clivage nord-sud qui reste encore aujourd'hui d'une certaine façon, hein, le nord industriel, le sud beaucoup plus rural, avec des cultures différentes, il y avait le clivage entre, disons, la gauche et la droite du pays, et il y avait une tragédie terrible qui était la Seconde Guerre mondiale. L'Italie était aussi un pays détruit du point de vue et de la vie quotidienne. Il faut savoir qu'il y avait 3 millions de maisons qui étaient détruites dans les pays, que la moyenne des consommations du pain c'était de 200 grammes par tête et encore, et on pensait qu'il fallait réduire à cause des problèmes économiques. Il y avait un autre clivage qui était entre les partisans de la République et ceux de la monarchie. Et la monarchie donc, de la Casa Savoia, qui avait unifié l'Italie, avait perdu toute popularité en Italie, et surtout à cause du roi qui était parti dans le sud d'Italie quand les Allemands étaient rentrés après l'armistice. Donc Vittorio Emanuele III, qui était le roi d'Italie, n'était plus très populaire. Et donc il y a eu un débat au sein des partis politiques, au sein de l'opinion publique, est-ce qu'il faut rester en monarchie ou passer à la République. Les partis antifascistes, les partis de la résistance, étaient tous pour la République. Mais comment faire ça, comment faire cette transition? La décision a été de faire voter les gens. Aujourd'hui, on pense que c'est quelque chose d'évident. Parfois les gens sont même ennuyés d'aller voter. On voit qu'il y a les taux d'abstention, on dit « Ah oui, il y a toujours des élections, ça sert à rien. » Eh bien non, c'était très important. En Italie, on ne votait pas depuis 20 ans. Les dernières élections où on avait la possibilité de choisir, c'était en 1924. 16 les élections de 1924 avec la victoire du parti fasciste et Giacomo Matteotti qui est tué par les fascistes après parce qu'il a dénoncé les arnaques et les fraudes des fascistes pendant les élections. Pendant 20 ans, on n'avait plus voté en Italie. Et donc, en 1946, on décide de voter. Et il y a trois choses importantes. On vote pour la forme d'État, république ou monarchie. La deuxième, on vote pour former une assemblée constituante. L'assemblée constituante, c'est ce qui avait été fait par les Français un peu plus tôt, parce que nous, les Italiens, on arrive toujours un peu plus tard. Et donc, pendant la Révolution française, les Français avaient fait l'Assemblée constituante pour faire la Constitution, donc la loi fondamentale de l'État. La troisième chose, c'était que pour la première fois, les femmes pouvaient voter.
C'est important, oui.
La première fois, les femmes pouvaient voter. Dans certaines villes de l'Italie, les femmes ont déjà voté quelques mois plus tôt pour des élections municipales, mais par exemple, pas à Rome, pas dans d'autres villes importantes. Et donc, il y a une mobilisation extraordinaire. Il y a 28 millions de personnes qui peuvent voter. C'était très compliqué de faire la liste des électeurs parce que tout était détruit. Donc, il y avait eu la décision de faire voter, même si la carte d'identité n'était pas à jour. L'important, c'était que les gens puissent participer. On avait dit aux femmes, ne mettez pas du rouge à lèvres. Parce que quand vous allez humidifier les bulletins de vote pour les fermer, ah, ça va laisser des traces.
Et on va voir que...
ça risque de créer, de poser des problèmes. Et alors, 28 millions de personnes, il y a presque 90% de participation. Si vous comparez au jour d'aujourd'hui, vous voyez la différence. Et aujourd'hui, je ne sais pas les élections européennes,
quelle sera la participation. 50% peut-être, ça
peut-être
sera
50%. Ouais. Là, 9 personnes sur 10 dans un pays où il y avait encore de l'analphabétisme, le taux de scolarité est très, très, très bas, mais tout le monde va voter. Et il y a une chose qui me touche beaucoup, c'était que les gens s'habillaient bien pour aller voter.
C'est un acte important aussi.
C'était un acte important.
Un acte fédérateur pour l'Italie aussi.
Hein, c'est ça. Oui. Ouais. Avec, si on compare un peu à la négligence avec laquelle aujourd'hui parfois on va voter, ouais. C'est presque un truc un peu ennuyeux. Pour eux, c'était hyper important. Et même si les problèmes économiques du pays étaient énormes. Mais donc, tout le monde a compris que c'était quelque chose d'extraordinaire, très pouvoir revenir à la possibilité de choisir. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'on ne connaît pas les résultats tout de suite. Ce n'est pas comme aujourd'hui qu'il y a la télé à 20h, attaque, et on a toutes les informations tout de suite. On n'a plus de patience aujourd'hui. On veut toutes les informations tout de suite. On vote le 2 juin, dimanche, et on vote aussi le lundi matin pour favoriser la participation.
Souvent, on vote sur 2 jours. Hein.
Exactement. Et une demi-journée. Mais la majorité des personnes vont voter les dimanches matin. Donc, il y avait des grandes files pour voter. On ne connaît pas tout de suite les résultats. Il faut quelques jours. Dans la nuit, entre les 3 et 4 juin, donc la nuit de lundi, on commence à voir des résultats partiels, les ministères commencent à faire quelque chose et on dirait que c'est la monarchie qui a gagné. En fait, il faut savoir que c'était surtout les partisans de la monarchie qui avaient poussé pour un référendum, parce que la première idée, c'était de faire voter l'Assemblée constituante sous la forme d'État. Mais les partisans de la monarchie disaient, non, 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 on fait voter les gens vont voter pour les rois.
Ah, ils pensaient que...
Oui, voilà, et en plus, Victor Emmanuel III, le roi, il savait très bien qu'il était plus populaire. Et donc, il avait abdiqué en faveur de son fils, Umberto II, à la française. Parce qu'il était plus jeune, parce qu'il n'avait pas eu de responsabilité pendant la guerre. Et donc, il pensait avec ça, on va un peu changer d'image. Et donc, il y avait une vraie incertitude. Et après, et mercredi, 5 juin, et on a les résultats. Et les résultats sont 12 millions et à peu près 300 000 votes la République, 10 millions 460 000 la monarchie. Donc moins que 2 millions de votes.
Il y a environ 2 millions de différence.
Oui.
Alors, ce que je vous propose, c'est d'écouter une chanson, parce qu'on va passer des chansons justement qui consacrent l'Italie. Et là, notamment, on écoute Francesco De Gregori qui nous chante Viva l'Italia.
Viva l'Italia, l'Italia liberata, l'Italia del valzer e l'Italia del caffè, l'Italia derubata e colpita al cuore, viva l'Italia, l'Italia che non muore, viva l'Italia,
presa a tradimento. L'Italia assassinata dai giornali e dal cemento. L'Italia con gli occhi asciutti nella notte scura. Viva l'Italia, l'Italia che non ha paura. Viva l'Italia, l'Italia che è in mezzo al mare. L'Italia dimenticata e l'Italia da dimenticare. L'Italia a metà giardino e metà galera. Viva l'Italia, l'Italia tutta intera. Viva l'Italia, l'Italia che lavora. L'Italia che si dispera e l'Italia che si innamora. L'Italia metà dovere e metà fortuna. Viva l'Italia, l'Italia sulla luna. Viva l'Italia, l'Italia del 12 dicembre. L'Italia con le bandiere, l'Italia nuda come sempre. L'Italia con gli occhi aperti nella notte triste. Viva l'Italia, l'Italia che resiste.
Alors c'est assez sympa les chansons qu'on passe parce qu'il y a toujours un petit peu une dualité. On sait qu'en Italie on aime bien les dualités, Moser, Saroni, Coppi, Bartali, etc. Et là c'est pareil dans ces chansons, les chanteurs italiens disent que oh là là, ça fonctionne pas l'Italie, ça va pas, mais en même temps on l'adore cette Italie. Et c'est vrai que De Gregori il chante comme ça, Benato c'est pareil, Gaber il chante comme ça. Voilà, il y a toujours un petit peu oh, cette Italie nous embête, mais finalement on l'adore, quoi. C'est un petit peu comme ça, là, toujours l'Italie, le contraste terrible. Voilà, d'ailleurs entre le nord et le sud aussi, etc., etc. Alors voilà, la République gagne avec à peine 2 millions de votes en plus. Juste une question, je ne sais pas si tu peux répondre. Est-ce qu'on sait, puisque c'est les femmes votaient pour la première fois, pour qui elles ont voté?
Les femmes ont voté à peu près, je pense, comme les différentes zones géographiques. Donc le nord, en grande majorité, pour la République. Et le sud, par contre, en large majorité, pour la monarchie. Et les femmes, probablement, il n'y a pas eu de différence. Mais comme les votes n'est pas enregistré de manière individuelle, c'est difficile d'avoir des statistiques. Mais on pense que ça correspond à peu près à la tendance général, qui était très net, hein. Nord République, Sud de Monarchie.
Renato avait une question par rapport au roi. Donc,
Le roi, tout le monde parle du 2 juin, mais il parle de ceux qui sont restés en Italie, etc., etc. Mais le roi est parti où et qu'est-ce qu'il a fait? Ben, je sais, mais enfin, c'est la question que je pose.
C'est intéressant de...
Ben, l'héros du roi, donc Umberto II, le fils de Vittorio Emanuele III, est très important. Parce que pendant une dizaine de jours au moins, il reste une forte incertitude sur les résultats. Le résultat dit que la République a gagné. Mais ce résultat, il est contesté. Il est contesté. Et encore aujourd'hui, on discute un peu les conditions des votes, parce que ça a été un passage extrêmement difficile et controversé. Mais à un moment donné, le roi, Umberto II, c'est même lui qui décide de trancher, en disant que, à un moment donné, il renonce. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va partir. Il va partir de l'Italie et il va partir au Portugal. Le Portugal, c'était considéré un pays, du point de vue des relations internationales, ami de l'Italie et ami de la monarchie. Aussi parce qu'il y a une disposition transitoire qui, en fait, empêchera aux fils, aux hommes, parce que c'était qui avait les titres pour hériter les titres des rois.
Les descendants mâles.
Les descendants, ouais. Les descendants mâles, de rester sous les territoires italiens. Une disposition qui après a été supprimée il n'y a pas longtemps. Donc, Umberto II, c'est même lui, d'une certaine façon, qui tranche, qui arrête les débats et qui comprend que la cause est perdue. Que la bataille est perdue pour la monarchie et maintenant il faut que la République puisse faire son cours. En fait, ce qui est intéressant, c'est de noter que malgré les résultats qui étaient incertains, après il y a eu une adhésion assez forte et du peuple italien à la République qui avait gagné. Parce que les débats République et monarchie, sauf quelques minorités, ils s'est un peu arrêté là. Et sur ça, il y a eu un rôle assez important du parti de la démocratie chrétienne. Et la démocratie chrétienne, elle avait pris une position favorable à la République. Imaginez-vous qu'ils avaient demandé l'autorisation au Vatican pour faire ça. Mais en fait, ces électeurs, si on regarde, avaient voté en grande majorité, les trois quarts des électeurs de la démocratie chrétienne avaient voté pour la monarchie. Et donc là, on voit aussi quel était le rôle de la politique à ce moment-là. Aujourd'hui, la politique suit les sondages. Ils regardent les sondages et après ils font des déclarations. C'était pas comme ça. La politique avait un rôle aussi un peu de leadership, on dirait. Et donc, il faisait un choix, même si les électeurs de son parti peut-être avaient une position différente. Et ça, ça a aidé beaucoup.
Alors, on va écouter maintenant un communiqué du consulat général d'Italie pour les élections du 7 et 8 juin.
Comunicato del Consolato Generale d'Italia a Parigi. Si comunica che sono stati indetti comizi elettorali per l'elezione dei membri del Parlamento europeo. Nella circoscrizione consolare di Parigi le operazioni di voto per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia si svolgeranno venerdì 7 giugno e sabato 8 giugno presso le sezioni elettorali istituite dal Consolato Generale d'Italia a Parigi. Agli elettori iscritti all'AIRE, che non abbiano optato per il voto ai membri spettanti al paese UE di residenza, sarà spedito dal Ministero dell'Interno entro il 25 maggio il certificato elettorale con indicati gli orari e la località della votazione. Tale certificato sarà spedito anche agli elettori italiani che si trovano temporaneamente in un paese dell'Unione Europea per motivi di studio o lavoro e ai loro familiari conviventi, che abbiano presentato apposita domanda entro il 21 marzo scorso. Gli elettori che non avranno ricevuto al proprio domicilio il certificato elettorale potranno contattare il Consolato Generale d'Italia a Parigi e chiedere il certificato sostitutivo per la missione al voto a partire dal 4 giugno. Per ulteriori informazioni e ogni aggiornamento si invita a consultare il sito del Consolato Generale d'Italia a Parigi www.consparigi.esteri.it. Nous vous informons que les élections pour le renouvellement du Parlement européen ont été convoquées. Dans la circonscription consulaire de Paris, le scrutin pour l'élection des membres italiens du Parlement européen se déroulera le vendredi 7 juin et le samedi 8 juin dans les bureaux de vote ouverts par le Consulat général d'Italie à Paris. Le certificat électoral mentionnant le bureau de vote, les horaires d'ouverture et la section où voter sera envoyé avant le 25 mai aux électeurs AIRE qui ne sont pas inscrits pour les élections européennes sur les listes électorales du pays UE de résidence. Ce certificat sera également expédié aux électeurs italiens se trouvant temporairement dans un pays de l'UE pour raisons scolaires ou professionnelles ainsi qu'aux membres de leur famille résidant avec eux, s'ils en ont dûment fait la demande avant le 21 mars dernier. Les électeurs qui n'auraient pas reçu le certificat électoral devront contacter le consulat général et demander un duplicata à partir du 4 juin. Pour de plus amples informations et mises à jour, nous vous invitons à consulter le site du consulat général d'Italie à Paris, www.consparigi.esteri.it.
Alors nous sommes avec Maurizio Pupo qui nous parle du 2 juin, la fête nationale italienne. Alors on a compris que donc il y a eu des élections et que finalement c'est la République qui a gagné avec 2 millions de voix d'avance. Et puis alors qu'est-ce qui s'est passé Maurizio après? Parce que voilà, ça y est, on a décrété que c'est fini, c'est la République qui a gagné, mais c'est pas si simple que ça après.
C'est pas si simple que ça, et donc l'Italie devient une république, et l'Assemblée constituante s'installe et rédige la Constitution. Donc pour la première fois dans son histoire, l'Italie aura une Constitution. Il y avait quelque chose, il y avait une charte un peu constitutionnelle, c'était le Statuto Albertino, mais qui avait été octroyé par le roi Carlo Alberto, même avant l'unification italienne, en 1848. Et donc, c'était pas quelque chose qui avait été voté par une assemblée. C'était les rois qui avaient dit, OK, je vais vous faire une charte constitutionnelle. Et en plus, c'était une loi ordinaire, comme on dit. Qu'est-ce que ça veut dire? Une loi qui pouvait être modifiée de manière assez simple. Donc, pendant les 20 ans du fascisme, le régime fasciste avait largement modifié, sans trop de soucis, cette charte qui était le Statuto Albertino. Il faut 19 mois à l'Assemblée constituante pour créer la Constitution, et c'est encore la Constitution qu'on a aujourd'hui en Italie. Bien sûr, il y a eu des modifications, des réformes. Il y a surtout une première partie qui fixe les principes généraux, après une deuxième partie qui est un peu plus, disons, pratique. Mais les grands principes de la Constitution sont les mêmes qui ont été votés.
Qui a écrit cette Constitution?
Et qui a écrit cette Constitution? Toutes les forces politiques ont travaillé ensemble.
Alors ça, pour une fois.
Exactement. Ça, c'est un point extrêmement important. Parce qu'il ne faut pas penser que les forces politiques allaient d'accord. C'était aussi un monde des conflits. Il y avait les partis communistes, avec Togliatti, qui étaient très proches de l'Union soviétique, et qui était en partie avec une idéologie extrêmement forte. Il y avait la démocratie chrétienne, qui était le parti catholique, un peu, disons, de la classe moyenne, de l'Italie paysanne, mais qui était fortement anticommuniste. Il y avait les socialistes, les partis laïcs. Je ne veux pas dire que tout le monde s'est détesté, mais il y avait quand même et des conflits extrêmement forts. Il suffit d'aller voir les chroniques de l'époque, ils se disaient n'importe quoi. Et en même temps, ils avaient décidé de travailler ensemble pour la Constitution. Vous savez, c'est un peu comme dans les sports. Sur les terrains, des foot, des rugby, on se donne des coups, on le sait très bien, et on rigole pas, mais les règles sont les mêmes pour tout le monde. Et tout le monde reconnaît les règles. Ça, c'est un point extrêmement important. Et Togliatti, le chef du Parti communiste, en 1944, avait dit « On est communiste, on est contre les autres partis, mais on va travailler avec les autres partis pour fixer les règles, pour donner à l'Italie une démocratie. » Et donc, 19 mois plus tard, on a dit, donc il faut un an et demi pour rédiger la Constitution. Et les 85% de l'Assemblée nationale votent en faveur de cette nouvelle Constitution. Et c'est un moment très important parce que vous imaginez un pays, comme on a dit, déchiré à des conflits qui étaient terribles. Un des objectifs de la nouvelle classe politique italienne était arriver à une pacification. Pacification ne veut pas dire être tous d'accord. On sait très bien qu'on n'est jamais d'accord. Vous voyez, Churchill, le grand homme politique anglais, disait « Trois Italiens, trois partis politiques ». On n'est pas né pour aller d'accord, mais il y a des moments très importants où il faut être capable de travailler ensemble. Donc, en 1948, on a la Constitution, et après, on aura les élections politiques qui vont élire l'Assemblée nationale, disons il Parlamento, avec, vous savez, une compétition très forte entre le Front Populaire, communiste et socialiste, et par contre la démocratie chrétienne, surtout, et qui était un peu un choix et aussi des politiques internationales, non? Parce que avec l'Amérique ou avec l'Union soviétique, c'était une autre époque.
Pas trop ce communisme trop fort en Italie hein, qui montait.
Exact. Au même temps, on a dit que l'Italie était un pays avec une situation économique vraiment dramatique. Et donc, entre 46 et 48, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que De Gasperi, l'homme politique de la démocratie chrétienne, il se rend aux États-Unis et il commence son discours en disant « Je sais très bien que, à part votre courtoisie personnelle, tout ici est contre moi. Je viens représenter un pays qui a été fasciste, qui a été allié de l'Allemagne nazie, contre les Américains, contre les Anglais, contre les Français, un pays qui est détruit. » Mais on a envie de faire renaître ce pays, de le reconstruire. Et donc, il y a aussi une contribution très forte des anciens alliés économiques, les fameux plans Marshall,
oui.
Pour la reconstruction de l'Italie.
Ça a aidé aussi peut-être en même temps les Américains, parce que forcément, ils y trouvaient leur compte aussi, peut-être.
Les Américains, ils ne font jamais rien pour rien.
Ouais.
Et ça. L'Italie était aussi un pays stratégique du point de vue militaire, parce que l'Italie est une porte avion sur la Méditerranée.
Et, oui, ouais.
Et donc, en plus, les Américains savaient que en Italie, il y avait les partis communistes plus forts.
Et oui, ils avaient peur qu'ils arrivent au pouvoir.
Exactement. Mais... Et donc, ils disent à De Gasperi, on va t'aider. Par contre, tu dois faire sortir les partis communistes du gouvernement. Et c'est ça que De Gasperi
fait. C'est ce qui s'est passé
fait.
Pendant plusieurs années, même si après, il y a eu un rapprochement... Beaucoup plus tard, malheureusement.
Et donc, je peux terminer là en disant que la forme politique qui s'est créée en 1948 avec la démocratie chrétienne et ses alliés au gouvernement et les partis communistes, les partis plus forts de l'Occident communiste et à l'opposition, c'est une forme politique qui va durer jusqu'au début des années 92.
Ouais. On va faire une pause musicale avec une très très belle chanson que je connaissais pas d'ailleurs, je l'ai trouvée comme ça un peu par hasard. C'est Eduardo Benato qui a écrit cette chanson pour à l'occasion des 150 ans de l'unification de l'Italie. Hein. Donc on l'écoute et ça s'appelle Italiani.
Dicono di noi improvvisatori, mafiosi scalmanati, santi e navigatori. È vero, sempre Guelfi e Ghibellini, Terroni e Padani, ma fortunatamente italiani. Dicono di noi rivoluzionari, pizzaioli e emigranti e canzonettari. È vero, tutti un po' cialtroni ed un po' geniali, ma fortunatamente italiani. E allora quando è festa sventoliamo le bandiere, tutte rosse o tutte verdi oppure a tre colori. Noi maledettamente piemontesi e napoletani, ma semplicemente italiani. Dicono di noi schiavi del pallone, tifosi esagerati e al bar tutti allenatori.
è vero, libertari, libertini e a volte puritani, ma fortunatamente italiani. E allora quando è festa sventoliamo le bandiere, o tutte rosse o tutte verdi oppure a tre colori. Noi maledettamente piemontesi e napoletani, ma semplicemente italiani. Noi fortunatamente italiani.
Ma fortunatamente italiani. È bellissimo questa cosa. Je ne sais pas pourquoi on est passé un peu sous les radars.
Très belle, je la connaissais pas.
Oui, oui, c'est assez étonnant et ça a été écrit pour les 150 ans de l'unification de l'Italie. Voilà. Alors, il nous reste deux minutes pour que tu nous dises donc pourquoi le 2 juin et pourquoi donc finalement cette date a été choisie, puisque ça a été un peu compliqué, puisque finalement les élections c'était le 2 et le 3, la constitution a été faite plus tard, donc voilà, il y a eu tout un peu il y a eu beaucoup de changements, même si maintenant c'est fixé au 2 juin depuis plusieurs années.
Il y a eu beaucoup de changements. À un moment donné, la fête avait été déclarée le 11 juin. Mais finalement, le choix est tombé sur le 2 juin. Et les premiers anniversaires du référendum, il y a eu une fête. Et après, la fête a été... Oui, en 1947. Et après, en 1949... on décide que c'est le 2 juin parce que c'était le jour du référendum, le jour de la grande participation collective. Donc, et l'idée, c'était aussi de célébrer cette mobilisation des personnes, du peuple italien pour aller voter et aller choisir. Et cette fête, après, avait été, pas complètement supprimée, mais presque, en 1977. Pourquoi? Parce qu'il y avait la crise. Il y a toujours une crise. Il y a toujours une crise.
Incroyable.
Mais vous savez, 77, c'était après les chocs pétroliers, donc c'était la fameuse conjoncture, on disait. Et donc, ils avaient dit, bon, il faut travailler un jour de plus. Donc, on va célébrer la fête de la République, mais les premiers dimanches de juin. Comme ça, c'est déjà un dimanche, il n'y a pas de souci. C'était un choix économique. Et après, au début des années 2000, Carlo Azeglio Ciampi a décidé, par contre, de rétablir la fête de la République de juin, et je pense qu'il a fait un bon choix.
Juste une dernière question, parce qu'en France, le 14 juillet, c'est une fête qui est très populaire, il y a des balles, il y a des défilés un peu partout, il y a des feux d'artifice. On ne sent pas ça en Italie, c'est juste un grand défilé à Rome militaire. Comment ça se fait qu'il n'y a pas encore cet engouement comme ça pour une fête un peu à la française?
C'est vraiment une belle question et c'est pas facile de donner une réponse. Et c'est exactement ce que tu dis. En Italie, il n'y a pas cette participation spontanée. Il y a cette participation spontanée plutôt le 25 avril, le jour de la libération, mais ça s'accompagne aussi à des polémiques,
ah
en
oui,
sorte
voilà,
de conflits,
tous les ans, il y a des polémiques,
et ouais. Parce que on considère peut-être parfois que et la gauche monopolise le 25 avril. Il y a tout un tas de discussions, à mon avis, qui n'ont aucun sens. Ça devait être en fait de tout le monde. Donc, c'est plutôt le 25 avril qui suscite débats, conflits et fêtes populaires et pas les 2 juin. C'est dommage. Peut-être il faut que nous, les Italiens, on arrive à comprendre l'importance de ces jours.
Merci Maurizio Pupo. Tu restes avec nous parce que normalement on devrait avoir la consule dans quelques minutes, qu'on remercie. Et là on va écouter une chanson que toi aussi tu as dit, mais ça il faut la mettre absolument, c'est la fameuse chanson de Giorgio Gaber. Io non mi sento italiano, ma però lo so, è purtroppo anche là.
Io, Gigi, sono nato e vivo a Milano. Io non mi sento italiano, ma per fortuna o purtroppo lo sono. Mi scusi presidente, non è per colpa mia, ma questa nostra patria non so che cosa sia. Può darsi che mi sbagli, che sia una bella idea, ma temo che diventi una brutta poesia. Mi scusi presidente, non sento un gran bisogno dell'inno nazionale, di cui un po' mi vergogno. In quanto ai calciatori non voglio giudicare, i nostri non lo sanno o hanno più pudore. Io non mi sento italiano, ma per fortuna o purtroppo lo sono. Mi scusi presidente se arrivo all'imprudenza di dire che non sento alcuna appartenenza, e tranne Garibaldi e altri eroi gloriosi non vedo alcun motivo per essere orgogliosi. Mi scusi presidente, ma ho in mente il fanatismo delle camicie nere al tempo del fascismo, da cui un bel giorno nacque questa democrazia, che a farle i complimenti ci vuole fantasia. Io non mi sento italiano, ma per fortuna purtroppo lo sono. Mi scusi presidente, ma questo nostro Stato che voi rappresentate mi sembra un po' sfasciato, è anche troppo chiaro agli occhi della gente che tutto è calcolato e non funziona niente. Sarà che gli italiani per lunga tradizione sono troppo appassionati di ogni discussione, persino in Parlamento c'è un'aria incandescente, si scannano su tutto e poi non cambia niente. Io non mi sento italiano, ma per fortuna purtroppo lo sono. Mi scusi presidente, dovete convenire che i limiti che abbiamo ce li dobbiamo dire, ma a parte il disfattismo noi siamo quel che siamo e abbiamo anche un passato che non dimentichiamo. Mi scusi presidente, ma forse noi italiani per gli altri siamo solo spaghetti e mandolini. Allora qui mi incazzo, son fiero e me ne vanto, gli sbatto sulla faccia, cos'è il Rinascimento? Io non mi sento italiano, ma per fortuna o purtroppo lo so. Questo bel paese forse è poco saggio, ha le idee confuse, ma se fossi nato in altri luoghi poteva andarmi peggio. Mi scusi presidente, ormai ne ho dette tante, c'è un'altra osservazione che credo sia importante. Rispetto agli stranieri noi ci crediamo meno, ma forse abbiamo capito che il mondo è un teatrino. Mi scusi presidente, lo so che non gioite se il grido Italia Italia c'è solo alle partite, ma un po' per non morire o forse un po' per celia, abbiamo fatto l'Europa, facciamo anche l'Italia. Io non mi sento italiano, ma per fortuna purtroppo lo sono. Io non mi sento italiano, ma per fortuna purtroppo, per fortuna purtroppo, per fortuna lo sono.
Madame Cassagnoli, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti voi.
Bonjour à vous, merci madame la consul de répondre à quelques questions de cappuccino en ce jour du 2 juin qui est une fête nationale pour tous les Italiens. Alors on sait que c'est la naissance de la République.
Oui.
Est-ce que cette date est vraiment la date de l'unification de l'Italie, ce 2 juin 1946?
Oui, surtout c'est le jour où toute la population italienne, c'est-à-dire pas seulement, disons, c'était la première fois que aussi les femmes ont eu le droit de voter et le peuple italien a choisi la forme de la République. Donc c'est vrai qu'au 2 juin 1946, 78 ans, il y a 78 ans exactement aujourd'hui, notre pays est devenu une République. une république basée sur des idéaux. Je ne sais pas si vous m'écoutez bien, je me sens en retour. Vous m'écoutez bien? Vous m'entendez bien?
Oui, oui, tout à fait.
Alors, ah, oui, parce oui, que non, je sens fait. Ma voix, mais quand même. la République italienne a été créée basée sur des idéaux magnifiques qui sont dans notre Constitution. Je vous invite à la relire. J'invite tous nos ressortissants dans cette journée si importante pour notre pays de relire la Constitution. Je l'ai fait très souvent. On a des nouveaux ressortissants chaque jour ici qui prend la citoyenneté. On parle de la Constitution. Dans les premières 12 articles, nous trouvons vraiment les principes qui sont à la base de notre Constitution, de notre pays, du pacte social entre les Italiens, et ils sont magnifiques. Et donc, je vous invite vraiment à les relire. J'étais en train de relire hier l'article 2, qui est magnifique. Il parle de solidarité, des droits et des devoirs de chaque citoyenne en termes de la solidarité entre tous les citoyens dans la société. Et donc, ça, c'est mon vœu pour tout le monde, de réfléchir aujourd'hui et célébrer notre magnifique pays. Et naturellement, comme on est dans un autre magnifique pays, la France, qui nous accueille, où on peut vraiment travailler si bien ensemble et qui nous donne tellement de possibilités, de réfléchir aussi à l'amitié fraternelle entre nos deux grandes démocraties, ce qu'on fait ensemble dans le cadre de l'Union européenne aussi. Et après, si tu vas me le permettre, cher Michel, j'aimerais aussi dire quelques mots à propos de la prochaine rendez-vous électoral qui nous attend à la fin de la prochaine semaine.
Merci à vous. Alors, le 2 juin, donc pourquoi le 2 juin est-il si important pour l'Italie et pour les Italiens?
Parce que c'est, comme nous venons de dire, les jours où vraiment, après la guerre, les Italiens ont voté en choisissant quel type de système de gouvernement aurait eu l'Italie après. Et vous savez, avant c'était une monarchie, et après le référendum, on a eu la République, et ça c'est aussi, comme je le disais, très important aussi parce que c'était la première fois que les femmes ont pu voter, exercer ces droits fondamentaux, et c'est le jour où vraiment notre système actuel a commencé. Et c'est vrai que c'est un jour où on célèbre notre pays partout. Il y a de magnifiques célébrations qui se passent en Italie. J'invite aussi tous nos amis à lire, à aller sur le site du Quirinal, le palais où notre président de la République siège. Ils ont chargé déjà et chargeront tous les textes de discours que notre président Mattarella vient de faire et va faire pour cette occasion. J'ai été en train de lire le très intéressant discours qu'il a fait hier à l'occasion du concert traditionnel pour les corps diplomatiques accrédité à Rome à l'occasion de la fête nationale de la République italienne. C'est très intéressant. Et ils pourront, vous tous et toutes, pourrez suivre les célébrations, voir des photos de ce qui se passe en Italie. Et naturellement, pour ce qui concerne les réseaux à l'étranger, toutes les ambassades, les consulats sont en train de célébrer, vont célébrer cette journée qui est vraiment une fête pour tout le monde. Et vous le savez, nous avons une très, très grande communauté à l'étranger, presque entre 6 et 7 millions de personnes, dont un demi-million ici en France. Et donc, c'est une véritable fête partout. Je crois dans tous les coins du monde, on est en train de célébrer l'Italie. Je peux dire de mon côté que j'ai parlé avec nos consuls honoraires qui sont dans les dom-tom et qui organisent des très belles initiatives. Par exemple, j'ai parlé hier avec notre consul honoraire à Cayenne, qui fera aujourd'hui une belle fête avec la communauté locale. Et donc, vous voyez, aussi au niveau du consulat général d'Italie à Paris, on célèbre notre République aujourd'hui et on réfléchit sur la valeur du pacte social, de nous tous unis comme pays et sur les valeurs qui sont à la base de notre nation.
Alors, nous sommes avec Maurizio Pupo, qui est journaliste, avec qui on a donc animé cette émission sur le 2 juin, et il voudrait vous poser une question.
D'accord, bonjour, monsieur Pupo, bonjour.
Oui, et bonjour. Il y a beaucoup de questions qui pourraient être posées sur les 2 juin, et j'en choisis une. Et oui. Donc on a dit que le 2 juin c'est une date fondamentale dans l'histoire italienne, parce que c'est le retour à la mobilisation populaire après 20 ans de dictature dans un pays déchiré, détruit par la guerre. Et est-ce qu'à votre avis, le peuple italien, l'opinion publique italienne comprend vraiment l'importance de ces jours? Est-ce qu'il y a un sentiment populaire ou bien il faut encore peut-être un peu de chemin? Il y a encore des chemins à faire pour que les personnes, surtout les jeunes générations, comprennent l'importance de cette journée qui a changé tout ce qui s'est passé depuis.
Ça, c'est une très belle question, je dois dire, et c'est une question pour répondre à laquelle, d'une façon favorable, on travaille toujours ici. Parce que naturellement, le sentiment d'appartenance à une nation, le sens d'identité, le fait aussi d'accepter un pas social qui peut aussi avoir des aspects qu'on ne peut pas même partager, mais que dans les valeurs plus généraux, on peut accepter, c'est quelque chose qui doit toujours être nourri. Les valeurs très importantes de la solidarité, comme je venais de dire, que c'est vraiment l'un des valeurs qui sont dans notre constitution, donc sur lesquelles je suis en train de réfléchir beaucoup et de parler beaucoup, sont continuellement à promouvoir. Il ne faut jamais s'arrêter. Et par exemple, je peux vous dire ce que je peux observer, que c'est naturellement la communauté italienne à Paris et dans une très grande circonscription, on fait un travail très important sur ça, par exemple dans les écoles. Et dans ce cadre-là, je vous remercie vraiment beaucoup de me donner l'occasion dans ces jours si importants de remercier aussi à travers la radio tous nos enseignants, les proviseurs, pas seulement les Italiennes qui travaillent ici chaque jour avec un dévouement incroyable à l'école italienne qu'on a à Paris, mais aussi dans toutes les écoles françaises qui travaillent avec nous, avec l'italien, dans des différents niveaux, les sections, les lycées à bas, quelque chose comme ça, mais aussi les amis français qui travaillent à côté avec nous, avec nos enseignants, en faisant un travail très important d'apprentissage des valeurs civiques et choses comme ça. C'est vrai que c'est un moment partout dans le monde où on a une dimension individuelle très prononcée, où on retourne un petit peu à se concentrer sur soi-même, à ne pas s'engager trop au niveau social. Et ça, c'est sûrement quelque chose qu'il faut essayer d'éviter et tenir tout le monde engagé. Parce que c'est vrai que la voix de chacun est très important et que la participation est très important. J'ai entendu la chanson qui vous était en train de passer, si c'était la même que j'ai écoutée, de Giorgio Gaber, le grand Giorgio Gaber. C'est là donc beaucoup à réfléchir pour tout le monde. Chacun peut avoir sa vision, et un pays est fait aussi de toutes les voix différentes. Mais c'est vrai que la participation, c'est la chose la plus importante pour un pays. Donc,
alors, dernière question. Sur les élections, hein, puisque ça va avoir lieu pour les Italiens le 7.
On passe aux élections.
Et le 8 juin, oui.
Oui. Alors, merci beaucoup aussi vraiment à Cappuccino pour me donner cette chance de parler aussi de ça. C'est vrai que vous nous avez aidé beaucoup à diffuser les informations pendant toute cette semaine. Donc, un grand merci à vous. À vous aussi, dans ces jours-là, de la fête de la Notre République, en général aussi, pour nos radios et tout ce que vous faites pour être voisins à notre communauté et diffuser les informations. C'est un travail très utile et je vous remercie de tout mon cœur. Alors, les élections vont se passer, pour ce qui concerne ceux qui votent pour les candidats italiens au Parlement européen, les 7 et les 8 juin. C'est-à-dire vendredi et samedi. Le vendredi, les sièges seront ouverts à partir des 5h jusqu'à 22h. Et les vendredis, ils ouvrent, et les samedis, ils ouvrent à 7h du matin. Et il y a des différents moments de clôture parce que dans les endroits les plus loin, tout se ferme à 16h, tandis qu'à Paris et dans les endroits plus proches, ce sera 18h du samedi. Vous trouvez la liste des endroits où on peut voter et les horaires dans les sites du consulat. Il y a une section dédiée. Naturellement, chaque électeur doit avoir reçu ou ira recevoir vraiment très tôt un certificat électoral où il y aura il y aura les indications précises du site où il doit aller à voter et les horaires et les jours, ce que je viens de dire. Et sur ça, c'est très important de dire que dès les 4 de juin, si quelqu'un n'a pas reçu le certificat électoral, peut contacter les consulats pour faire disons, vérifier sa position. Et s'il n'a pas reçu le certificat et il y a les droits de vote, nous pouvons lui donner et mettre un certificat ici au consulat et on peut donc, disons, voir ici avec nous dès les 4 de juin. Naturellement, c'est une élection qui se peut passer pour chaque citoyen de l'Union européenne, soit en votant pour les membres du Parlement là, dédiés à l'Italie dans ce cas-là, ou au pays de résidence. Donc, les Italiens en France peuvent aussi voter pour les candidats au Parlement européen de la France. Et donc, ça peut passer le cas que quelqu'un ne reçoit pas le certificat électoral parce qu'il est déjà inscrit dans les listes françaises. Et dans ce cas-là, le droit de vote est garanti et se passera pour les candidats français. Mais quand même, si vous allez voir, chers amis, dans les sites du consulat, tout ça est très bien expliqué. Et donc, vous pourrez voir la liste des endroits où on peut voter, cette explication que je vous dis sur les duplicata et toutes les informations qu'on peut avoir générales. Et après, l'adresse email et tous les contacts pour nous poser des questions spécifiques. Ce que je vous prie quand même, c'est de bien lire tout ce qu'il y a déjà en ligne parce que c'est vrai que beaucoup de questions sont déjà répondues en ligne et ça va aider mes collègues qui travaillent vraiment incroyablement et que eux aussi, je tiens à remercier ici pour le travail vraiment très intense et dévoué qu'ils sont en train de faire, auront le temps de répondre à ceux qui ont vraiment besoin de savoir sa position spécifique et être aidés.
Merci. Merci. Merci Madame Irène Castagnol, consul général de France. Merci d'avoir répondu à ces quelques questions. En plus, c'était très sympathique de le faire pour ce 2 juin qui est très symbolique, évidemment, pour nous. Merci.
Oui.
J'espère Michel, qu'on vous retrouvera bientôt.
Oui, absolument. Et si je peux dire un mot en italien,
si, vraiment, come no.
mando a tutti e le nostre amiche e i nostri amici che vi seguono il mio abbraccio più grande, i miei migliori auguri per la festa della Repubblica Italiana. Ci stringiamo veramente attorno al nostro paese oggi e gli mando un abbraccio ancora più forte perché mancano pochi mesi alla mia partenza e spero anzi che poi avremo un'occasione per venire a salutarvi dalla radio e magari parlare un po' di questi anni bellissimi insieme.
Un grande piacere.
Merci Michel, merci.
Grazie a voi.
E a voi tutti. Sì. Buona festa
anche a lei.
Merci.
A presto.
Michel. A presto. Ciao. Ciao a tutti.
C'est fini? Le petit
je
train
pense, oui, je pense que oui,
Michel. Il commence à partir.
Pour aujourd'hui, c'est fini.
Oui, pour aujourd'hui.
Pour aujourd'hui.
D'accord.
Hein.
Tous les cas, on remercie Raphaël parce que c'est vrai qu'on lui a volé un petit peu de temps. Mais bon, c'était pour la bonne cause parce qu'aujourd'hui, c'est le 2 juin, c'est la fête.
C'est la fête de l'Italie,
de la République. Et puis en plus, bon, il y avait la consul qu'on remercie
elle
encore.
Elle a bien expliqué.
Et merci à Renato pour ses explications et à Maurizio Pupo qui nous a aussi éclairé par rapport à ce 2 juin qui est très important pour l'Italie. Et on espère qu'on le retrouvera peut-être, qui sait, dans les prochaines émissions de Cappuccio pour des chroniques. Voilà, nous, alors mais je ne me rappelle plus, là maintenant avec tout ça, j'ai la tête imbrogliata.
Vous répétez la même chose.
Ah si?
Mais tous les dimanches.
Mais oui, mais
on
parce
se verra dimanche prochain.
J'ai un doute. C'est quand?
À partir de les 8.
Bon, d'accord. Le quand?
Dimanche prochain.
Ah, d'accord, dimanche prochain. Benissimo. Ok, Raffaellito et puis Renatine aussi.
À la semaine prochaine. À tous et bonne.
Merci, ciao à tous. Bonne fête.
Bonne settimana et bonne fête.
Ta 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 ta